CAP, site immobilier de particulier à particulier présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, l'émission 100% immo de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marc Ezrati.
Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler des seniors face au crédit immobilier. Peut-on encore emprunter après 50 ans? On pose la question à Jean-Christophe Bocon-Gibault, qu'on reçoit aujourd'hui en studio avec nous, président du site le-partenaire.fr et Corinne Joly, présidente du groupe PAP. 50%, c'est le chiffre de la semaine, mais à quoi il correspond? Eh bien, la réponse, on l'aura tout à l'heure avec Michel Leschenault, rédacteur en chef à Se Loger. Corinne Joly, on la retrouvera à nouveau, mais cette fois pour un coaching immobilier. Avec elle, on va voir comment on estime la valeur d'un bien immobilier. Le bien coup de cœur nous sera présenté aujourd'hui par Patrice Zonardi. Il est le patron de l'agence Guy Hoquet de Toulouse Saint-Cyprien. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Frougerat, directeur de la com du groupe Foncia, avec cette semaine d'ailleurs, Philippe, une question très intéressante. Quelle est la différence entre un balcon et une terrasse?
Je ne sais pas, mais je vais écouter Frédéric Fougerat alors.
Mais tout de suite, c'est le journal de l'Imo.
Sud Radio, on parle Imo, le journal.
Et on démarre ce journal avec des résultats historiques pour le marché de l'immobilier de luxe en France en 2020.
Effectivement, Philippe, l'année 2020 aura été une année exceptionnelle pour l'immobilier de prestige en France. Le réseau Sotheby's, l'un des leaders de ce segment, s'est même étonné cette semaine de très bons résultats avec un volume de vente de plus d'un milliard d'euros. C'est plus 5,5% par rapport à 2019. C'est concrètement, très concrètement, 706 ventes de prestige qui ont été réalisées par le réseau Sotheby's en France, soit une hausse de 10% par rapport à 2019.
On poursuit, Marc, avec une nouvelle façon d'utiliser des appartements proposés à la location sur Airbnb en cette période de crise sanitaire.
Et oui, et qui dit crise sanitaire dit fermeture des casinos, des salles de jeu. Et bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, des policiers du service central des courses et jeux ont fait une descente dans un appartement du 13e arrondissement proposé à la location 13e arrondissement de Paris proposé à la location sur Airbnb et reconverti en salle de poker clandestine. Alors les policiers ont trouvé autour de la table une dizaine de joueurs et des milliers d'argent d'euros en liquide. Évidemment, sans mesure barrière, sans masque, sans rien de tout ça. Ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que l'organisatrice de cette partie n'est autre qu'une croupière
professionnelle.
Ah oui. Qui, d'ordinaire, travaille dans un casino réputé, on ne va pas dire lequel,
oui.
tout à fait légalement.
Ça rappelle les speakeasy, les bars clandestins sous la prohibition.
Exactement. Ouais. Mais vous savez aussi que Airbnb, on a vu d'autres cas d'utilisation détournée. Notamment des...
Olé olé.
Allez, on finit ce journal avec l'histoire de la semaine et on va revenir sur cet incident, ce piratage, ce bug informatique qui a fait, dont a été un peu victime un célèbre site de petites annonces racontées.
Oui, imaginez Marc, un 5 pièces, 122 mètres carrés dans le 2e arrondissement de Lyon à 49 029 euros ou un 4 pièces, 94 mètres carrés dans le 7e arrondissement à 44 452 euros. C'est une très belle voiture. Pendant près de deux semaines, en ce mois de janvier, des dizaines d'annonces immobilières publiées sur le Bon Coin ont vu leur prix fondre comme neige au soleil. C'était peut-être la spirale déflationniste, c'est le contraire de l'inflation. Le site de petites annonces a rapidement alerté les internautes qu'un souci informatique touchait les prix affichés. C'est moins qu'on puisse dire. On n'en sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, d'autant que cet incident n'aura touché que les annonces de biens proposées dans certaines villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous savez, comme disent les Auvergnats, un sou est un sou, ceci explique peut-être cela.
Oui, et vous avez parlé de neige qui fond au soleil. Moi je dis juste vivement le retour des remontées mécaniques. Merci.
Il va falloir attendre.
Philippe, merci Philippe, tout de suite le Mac de la semaine.
Guy Hoquet, réseau de franchises immobilières présente.
Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier.
Et dans le Mac de la semaine, on va parler ce matin de l'accès au crédit immobilier pour les seniors.
Et pour en parler avec nous, Corinne Joly, elle est présidente du groupe PAP. Et Jean-Christophe Bocon-Gibault, il est président du site le-partenaire.fr. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Alors, question sans détour, direct cash. Est-ce qu'on peut encore emprunter après 50 ans en 2021?
Oui, c'est possible. Les plus de 50 ans, ça représente même environ un cinquième des emprunts. Donc, c'est pas rien et c'est en augmentation ces dernières années. C'est des profils qui ont souvent un bon apport personnel, de meilleurs revenus que les plus jeunes, désolé, et peu de charges, car dans beaucoup de cas, les enfants ne sont plus à la maison. Donc, le point important, si vous empruntez alors que vous êtes encore en activité, c'est vraiment d'anticiper votre départ à la retraite. Soit vous faites un crédit court qui sera terminé avant que vous partiez à la retraite, soit vous faites un crédit adaptatif dont les mensualités baisseront à ce moment-là. Mais dans ces conditions, c'est parfaitement possible d'emprunter.
Mmh. Bonjour Jean-Christophe Bocongibo.
Bonjour Marc.
Alors, on sait que les seniors, c'est souvent une clientèle solvable pour les banques, mais paradoxalement, ils sont souvent exclus du crédit immobilier. Comment on explique cela ?
Alors oui Marc, comme l'a dit Corinne, ils ont généralement un apport qui est plus élevé puisqu'ils sont, ils ont pu profiter de leur épargne. Mais ça ne suffit pas complètement. Parce que le banquier, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va anticiper la baisse de revenus, notamment qui est liée à la retraite. Mmh. Ce qui va avoir un impact sur la capacité d'emprunt pour les seniors. C'est pour ça qu'il faut un petit peu anticiper. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est celui de l'assurance de prêt. C'est que l'assurance de prêt va être un petit peu plus élevée, un petit peu plus chère pour les plus de 50 ans, ce qui va avoir un impact sur le coût du crédit. Donc globalement, ils vont devoir faire des projets qui peut-être seront un petit peu plus courts.
Pour vous, Corinne Joly, un emprunteur senior, c'est un emprunteur à risque pour les banques ?
Oui, enfin le risque principal, c'est évidemment, c'est pas joyeux, mais c'est la maladie et le décès. Donc c'est sûr qu'il y a plus de risques quand on a 60 ans que quand on a 30 ans. Mais bon, enfin les banques, elles ont quand même l'habitude de gérer les risques et elles ont une solution pour ça, c'est l'assurance. Et c'est ça, comme vient de le dire Christophe, qui risque de coûter cher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comparer là toutes les offres que vous avez et les différentes options, parce que c'est essentiellement ça le risque par rapport à un jeune.
Ouais, justement, l'assurance de prêt immobilier, on en parle, vous en avez parlé tous les deux. C'est ce qui repose souvent, d'ailleurs, sur un questionnaire de santé. Mais Jean-Christophe, est-ce qu'il est possible de négocier cette assurance de prêt immobilier ?
Alors tout d'abord, il faut rappeler effectivement que le questionnaire de santé sera quasiment systématique pour les personnes de plus de 50 ans. Et pour répondre directement à votre question, Marc, non, ça ne se négocie pas. On ne peut pas négocier ça comme on négocie un taux. Ça n'est pas possible. On va forcément devoir respecter les, entre guillemets, ces règles-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'assurance emprunteur est un marché concurrentiel aujourd'hui. Mmh. Et donc, les assureurs, aujourd'hui, adaptent pas mal les questionnaires de santé. Donc, il y en a des plus ou moins allégés, on va dire. Donc ça, il faut regarder ça. Et le conseil qu'on peut donner aux auditeurs par rapport à ça, c'est que souvent, les contrats d'assurance des banques, par rapport à ça, par rapport aux gens qui ont plus de 50 ans, peuvent être plus faciles à souscrire de leur point de vue.
Jean-Christophe et Corinne, il n'y a pas de test de santé mentale après 50 ans.
Non. Non, non, ça va être un test d'effort.
Ah bon, ça va.
Ouais, plus de test d'effort, oui. Je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux faire un test de santé mentale des fois.
Corinne Joly, franchement, est-ce que, par exemple, moi, qui juste à 51 ans, je dois tout déclarer dans mon questionnaire de santé ? Est-ce que je peux jouer avec ça ou pas ?
Je ne sais pas, vous vous sentez comment ?
Moi, je me sens bien.
Je vais chercher le défibrillateur, je reviens.
Non, mais le principe, c'est que si vous cachez quelque chose et que vous avez un problème ensuite, si vous avez menti, l'assurance, elle ne marchera pas. Ça peut être ennuyant, c'est quand même le principe de l'assurance. Donc, ne cachez pas un vrai problème ou un vrai risque de santé que vous avez. Maintenant, en fait, ce qui est souvent compliqué dans les formulaires, c'est que des fois, il y a des questions un peu en bois, genre... est-ce que vous avez fait une radio au cours des 5 dernières années ? Et puis, si vous avez fait une radio dentaire, vous vous dites « Oui, j'ai fait une radio dentaire, mais enfin bon, c'est pas un risque énorme non plus.
Ouais. »
Donc, c'est ce genre de questions, des fois, qui sont un peu compliquées parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Elles sont très larges. Voilà, et dans ces cas-là, c'est vrai que les problèmes dentaires, c'est pas non plus le truc qui risque de faire que vous remboursez pas votre crédit non plus, quoi.
C'est sûr.
Heureusement. Jean-Christophe Bocongibo, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui veulent emprunter après 50 ou 60 ans, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ?
Alors moi, j'aurais trois conseils. Le premier, c'est de rebondir sur ce qu'a dit Corinne, c'est de, par rapport à la retraite, c'est d'anticiper les choses, notamment compte tenu de la baisse de revenus. Donc c'est potentiellement d'envisager des durées soit plus courtes, soit des aménagements d'amortissement et donc de mensualité. Le deuxième, c'est que si vous êtes parmi les gens qui ont des problèmes de santé graves, il existe des dispositifs aujourd'hui pour vous permettre d'emprunter. Il y a une convention qui a été signée par des assureurs qui s'appelle la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, ARAS, que les assureurs qui l'ont signé sont obligés d'appliquer. Il y a beaucoup d'informations sur le web là-dessus et vous pourrez trouver tout ce qu'il faut pour vous assurer. Le troisième élément qu'on peut envisager, c'est le prêt viager hypothécaire, qui est une formule peu connue, mais qui permet aussi, lorsqu'on a des problèmes de santé, d'emprunter.
D'accord. Corinne Joly, un dernier conseil ?
Ah bah c'est d'écouter Jean-Christophe, je pense que c'est la clé.
Merci Corinne.
Sinon, on se donnerait quand même le même que pour tous les crédits. Comparez les offres, voir où faites appel à un courtier, mais regardez vraiment ce qui se passe dans toutes les banques. Elles ont des fois des politiques différentes, donc comme d'habitude, comparez.
Et je ne sais pas vous, mon cher Marc, mais moi, en écoutant Corinne Joly et Jean-Christophe Bocongibaud, c'était pour les seniors, j'ai rajeuni de 30 ans.
Ah, ça fait plaisir.
Je
ne
sais pas si les banques vont le voir pareil.
Merci en tout cas à tous les deux. Merci Corinne Joly, on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching IMO. Merci Jean-Christophe Bocongibaud d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Président du site le-partenaire.fr. Sans plus attendre, on est avec Michel Leschenaud, rédacteur en chef à Se Loger. Bonjour Michel.
Bonjour Marc, comment allez-vous?
Ah, ça va super bien. Quand je vous entends, ça va encore mieux.
Ah oui.
Je rajeunis de 30 ans.
Ça fait plaisir.
Oh bah c'est bien, ça vous fait 70 ans.
Michel, avec vous, le chiffre de la semaine. Ce chiffre, c'est 50%, mais à quoi il correspond?
Bah écoute, aujourd'hui Marc, je vais vous parler de stations de ski et malheureusement, il y a très peu de chances que les remontées mécaniques puissent rouvrir au mois de février. C'est pas moi qui le dis Marc, mais c'est notre ministre de la Santé, Olivier Véran. D'ailleurs, les professionnels du ski redoutent une saison blanche. Et oui Marc, en faisant chuter le taux d'occupation et exploser les annulations des locations, la crise sanitaire a fait voler en éclats tout l'écosystème montagnard.
Mais alors, les prix des logements en station, est-ce qu'ils s'en sont ressentis ?
Eh bien non Marc, dans la plupart des stations, les prix des annonces immobilières se maintiennent, voire même ils augmentent. Par exemple, dans le domaine des Trois-Vallées, les prix gagnent ainsi 22% sur un an.
Donc si je vous ai bien compris, la crise sanitaire n'a eu aucun impact sur le marché immobilier en montagne.
Eh bien si Marc, mais ce n'est pas du côté des prix
donc
qu'il faut regarder.
J'ai pas compris.
Voilà. Et ben, il faut pas regarder du côté des prix, mais il faut regarder du côté de la tension immobilière.
Bon, c'est quoi la tension immobilière ?
Alors, je vais vous expliquer. Dans le cas présent, il s'agit du rapport entre le nombre de personnes qui recherchent un bien en station et le nombre d'annonces disponibles sur Se Loger. En clair, c'est un indicateur qui traduit le nombre moyen d'acquéreurs potentiels par annonce. Or, l'analyse de nos données nous apprend qu'à Tignes, la tension immobilière baisse de, écoutez bien, 50%. Marc. Pour vous consoler, Marc, il vous reste le ski de fond et les raquettes. Encore que si j'en crois votre femme, vous êtes plus branché raclette que raquette.
Bientôt, je n'aurai plus aucun secret pour vous, mon cher Michel. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Ce qu'il y a de bien dont on parle IMO, c'est qu'on passe de la tension artérielle à la tension immobilière. C'est fabuleux ce matin. Merci Marc, merci Michel. On parle IMO, on se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, on parle IMO.
On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve, Marc, avec l'incontournable Corinne Joly.
Rebonjour Corinne. Alors Corinne, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui intéresse beaucoup les propriétaires qui désirent vendre. Comment on fait pour estimer la valeur de son bien ?
Alors effectivement, lorsqu'on s'apprête à vendre son logement, c'est la question numéro un, parce qu'il faut être ni trop haut ni trop bas, mais juste au bon prix. Et comme souvent, la vente de son logement, ça conditionne d'autres projets, on a également besoin de savoir combien on pourra disposer à l'issue de la vente. Donc pour enclencher par exemple un autre achat, eh ben, il faut savoir combien vaut le logement qu'on a actuellement.
Alors justement, par où on commence ?
On se renseigne sur le marché. Ça, c'est vraiment le point clé. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Et il y a un outil fondamental pour ça. C'est une base de données de toutes les transactions immobilières qui est accessible en open data, c'est-à-dire pour le grand public. Vous pouvez la consulter en vous connectant sur votre espace personnel sur le site impots.gouv. Et oui, c'est là. C'est pas intuitif, mais c'est comme ça. Et en consultant cette base, vous pourrez voir à quel prix se sont vendus des biens immobiliers comparables aux vôtres près de chez vous. Cette étape, elle va vous permettre de sérieusement dégrossir le sujet. Donc vraiment, allez vous connecter sur le site des impôts. Pour une fois, ça vous fera peut-être plaisir. vraiment là où il y a beaucoup d'informations.
Absolument. Sur ce site, d'ailleurs, hein, on trouve des informations très, très intéressantes sur les prix. Mais souvent, on voit aussi qu'il y a des prix très disparates pour un même quartier.
C'est vrai, parce qu'il faut prendre justement des logements qui sont comparables aux vôtres selon quelques critères. Premier critère, la taille du logement. On évite de comparer les studios avec les 5 pièces. Donc prenez des biens qui ont une surface analogue à la vôtre, par exemple à plus ou moins 20 mètres carrés. Autre critère très important, l'année de construction. Pareil, on ne compare pas un immeuble des années 70 à un immeuble haussmannien. Et enfin, pour les maisons, la taille du terrain. Il faut prendre des maisons qui ont une parcelle de taille analogue à la vôtre à peu près. Là déjà, vous aurez des biens comparables, et donc vous aurez des prix qui seront plus resserrés.
D'accord, donc taille du logement, taille du terrain, année de construction, ça je vois, on resserre un petit peu la liste, et après ?
Après, vous devez avoir entre 5 à 10 ventes analogues à votre bien. Et là, c'est simple. Vous regardez la moyenne des prix au mètre carré auxquels ces biens se sont vendus. Ça vous donne donc un prix au mètre carré moyen pour vous. Et puis, vous le multipliez par la surface habitable de votre bien. Pour les surfaces annexes, comme les surfaces mansardées, les combles aménageables, les balcons, etc., vous comptez environ un tiers de leur surface. Il faut les pondérer. Ça compte, mais évidemment, ça compte pas comme des chambres. Voilà. Tout ça, ça va vous donner un prix moyen. Ça mérite encore d'être un peu affiné, mais là déjà il faut savoir que si vous avez fait tout ça, vous êtes quand même bien dans les clous parce que vous avez étudié votre marché et ça vaut vraiment le coup de le faire. Ensuite, vous serez très à l'aise pour discuter du prix car vous aurez des vrais arguments. Vous pourrez montrer que d'autres biens se sont vraiment vendus à un prix analogue au vôtre.
Oui, mais Corinne, quand même, il faut ajuster ce prix moyen à son propre bien.
Oui, si votre bien il a des atouts majeurs ou des défauts majeurs, il faut évidemment ajuster, mais ce prix moyen il est quand même intéressant parce qu'il y a quand même justement beaucoup de biens normaux qui ne sont ni refaits à neuf ni à rénover, qui sont assez classiques, qui vont grosso modo se vendre franchement à ce prix moyen. Maintenant, il faut essentiellement tenir compte de l'état du logement, de ses prestations et de ses particularités s'il y en a. Pour faire simple, dans le pire des cas, un bien vraiment pas en bon état, vous allez appliquer une décote d'environ 20%. Et dans le meilleur des cas, un bien refait à neuf avec de belles prestations, vous allez appliquer une surcote d'environ 20%. Donc par rapport à ce prix moyen, en gros vous êtes soit à moins 20%, soit à plus 20%, vous êtes entre les deux et c'est là où vous devez ajuster en fonction de votre bien.
Mais par exemple un rez-de-chaussée ou une belle vue, comment on sait combien ça vaut ?
Alors, il y a des grilles de calcul, si vous voulez vraiment affiner. Elles sont simples, elles sont utilisées par toutes les personnes qui font de l'estimation immobilière et elles vous permettent d'ajuster le prix en fonction justement de critères comme l'orientation, le vis-à-vis, l'état du logement. Bon, il s'agit bien entendu d'être honnête avec vous-même lorsque vous utilisez ces grilles. Si votre bien a des défauts, ne les exagérez pas et s'il a des atouts, ne les surestimez pas non plus. On cherche un juste prix, donc il faut être juste. Un rez-de-chaussée côté rue, par exemple, c'est une sérieuse décote. C'est environ moins 20%. Côté cour, c'est plutôt moins 15%, c'est un peu mieux. Une belle vue, en revanche, c'est plus 5% à plus 20% selon le caractère exceptionnel de la vue. Vous pouvez trouver le détail de tout ça sur pap.fr, évidemment.
Et est-ce qu'on y ajoute une marge de négo ?
C'est l'usage, parce qu'en immobilier, il y a toujours une petite négociation, mais attention à ne pas exagérer. En gros, si vous êtes sur un marché vraiment très dynamique, en général, c'est les grandes métropoles, vous pouvez ajouter environ 10%. Sur un marché classique, ajoutez environ 5%. Et puis, si vous êtes sur un marché difficile, alors là, n'ajoutez que 2-3%, voire rien du tout, pour coller au plus près à la réalité, parce que ça va déjà pas être facile de vendre.
Et justement, Corinne, quand on vend un logement, est-ce que c'est grave de mal estimer son logement ?
C'est surtout une perte de temps. Si vous avez vraiment surestimé, vous risquez d'avoir peu de contacts. Alors attention, si vous avez surestimé de 5%, ça ira. Hein. Les acheteurs, ils vous contacteront quand même, mais ils négocieront. Mais une surestimation de plus de 10-15%, ça risque de vraiment diminuer le nombre de contacts. Et là, vous allez donc perdre du temps. Après, je trouve qu'il faut pas non plus en faire des caisses avec ça. C'est pas la panique. Un prix, ça se corrige. Quand vous publiez une annonce, vous voyez les retours que vous avez. Sur pap.fr, on vous dit même précisément combien de personnes ont vu votre annonce, combien de personnes ont cliqué dessus. Si vous voyez qu'il y a du monde qui voit votre annonce, mais que personne ne vous appelle, il faut en tirer les conclusions. C'est probablement un signe qu'il faut baisser votre prix.
Un dernier petit conseil, Corinne ?
Une conclusion plutôt. L'estimation immobilière, c'est pas sorcier, vraiment, surtout avec toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet, mais il faut se mettre à la place de l'acheteur. Les erreurs classiques des vendeurs, ça consiste à valoriser le bien soit à partir de votre prix d'achat et en ajoutant les travaux que vous avez faits. Ça, c'est vraiment une erreur. Souvent, les travaux ne sont pas rentables. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et l'autre erreur, c'est de partir du montant dont on a besoin pour acheter son nouveau bien. Ça, c'est pas du tout des bonnes méthodes parce que l'acheteur se moque de tout ça. L'acheteur, c'est un particulier comme vous. Et lui, ce qu'il va voir, c'est les biens disponibles sur le marché aujourd'hui et il va les comparer. Donc, mettez-vous à sa place. Demandez-vous honnêtement à quel prix vous achèteriez votre bien aujourd'hui. C'est du bon sens et c'est la seule méthode pour estimer son bien.
D'accord. Merci Corinne pour tous ces conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement avec un coach immobilier sur le site pap.fr. On est ce matin, on part à Toulouse, Philippe, et on va rejoindre notre ami Patrice Zonardi, que vous avez rencontré
au Florida.
Au Florida, c'est ça. Bonjour Patrice Zonardi.
Bonjour Patrice.
Bonjour.
Agent immobilier, patron de l'agence Guy Hoquet de Toulouse, Saint-Cyprien. Vous avez un coup de cœur à nous présenter ce matin, on vous écoute.
Oui, ce matin, j'ai sélectionné pour vous un appartement T3 qui est en bord de Garonne, pas loin de la prairie des Filtres. Il est au deuxième étage, deux belles chambres avec balcon et un grand séjour aussi avec une petite terrasse, une place de parking en sous-sol dans un immeuble des années 90, un joli produit bien ensoleillé, traversant.
Mmh. Il est à quel prix ce bien ?
Il est à 289 000 euros.
Bien dans les prix du marché dans le quartier. Vous confirmez, Philippe ?
Ah oui, non, c'est un super quartier, la Prairie des Filtres à Toulouse, c'est top, en bord de Garonne, royal.
Ben voilà. Donc, écoutez, merci Patrice Zonardi. Ce bien, on va pouvoir le redécouvrir également sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de cette émission. On peut aussi appeler notre standard 0826-300-300 pour en savoir plus. Tout de suite, le 48 secondes.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes.
Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité.
Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre un balcon et une terrasse ?
Bonjour Marc, vous me posez en réalité plusieurs questions en une. D'un point de vue architectural, un balcon est une structure suspendue en prolongement d'une façade. Il dispose généralement d'une rambarde ou balustrade dans un style architectural du bâtiment. Une terrasse, elle, repose sur une surface pleine. Elle est attenante ou pas au bâtiment et souvent considérée comme une extension de la maison. Au niveau juridique, dans un immeuble, le balcon relève généralement de l'espace privatif, alors qu'une terrasse, par exemple sur un toit, peut être privative ou être une partie commune de la copropriété. Enfin, au niveau de la valorisation du bien, le balcon n'apporte qu'une faible valeur ajoutée, alors que la terrasse est souvent considérée comme une pièce supplémentaire. Attention, la loi Carrez n'inclut pas leur surface dans les mètres carrés habitables, mais celle-ci est souvent pondérée et intégrée au mètre carré du bien pour le calcul de son prix. La valorisation de la terrasse est souvent plus importante que le balcon, tout dépendra quand même de la configuration du logement, du secteur, de l'étage, de l'exposition, du vis-à-vis. Voilà Marc, vous en savez désormais un peu plus sur la différence entre un balcon et une terrasse.
Merci Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Philippe, la semaine prochaine, on va parler d'aménager ses combles. On en parlera avec Christophe Dupont, il est président de Techway, et avec notre amie Céline Chahi, qui est rédactrice en chef à Maisons et Travaux. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.
Et tout de suite, on va être comblé. C'est Natacha Harry, vos animaux.
Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.